Je crois que l'affaire ne s'arrêtera pas là parce que, avant que ces élections aient lieu, il faut qu'il ait le soutien des deux tiers du Parlement pour pouvoir effectivement dissoudre et appeler à de nouvelles élections. Donc les débats vont commencer et je pense que la situation n'est pas du tout acquise pour lui. Les partis politiques d'opposition notamment ont déjà dit qu'une élection qui aurait lieu le 15 octobre, c'est-à-dire avant la date butoir du 31, ne pourrait pas avoir lieu si effectivement on n'en savait toujours pas plus sur les intentions du gouvernement par rapport au Brexit. Il faut d'abord régler la question du Brexit, savoir si on sort avec ou sans un accord, et après avoir une élection.
Alors, il s'est passé quand même beaucoup de choses ces derniers jours. D'abord, donc avec la pause que voulait imposer Boris Johnson au Parlement. Alors là, il y a un tribunal qui a dit que c'était pas à la justice de trancher sur cette question. Il y a encore des recours en justice qui sont en cours. Est-ce que vous pensez, comme les éditorialistes britanniques, que Boris Johnson a perdu le contrôle sur le processus du Brexit? Ou au contraire, est-ce que ça fait partie de sa tactique?
Oui, ça fait partie en tout cas d'un plan de bataille. Suspendre le Parlement pour une durée anormalement longue, 5 semaines au lieu de 3 semaines habituelles, et surtout, c'est le timing qui a choqué, c'est-à-dire le faire alors que on ne sait toujours pas dans quelles conditions le Royaume-Uni va sortir. Tout ça a été vécu effectivement comme une atteinte au droit du Parlement à pouvoir débattre de manière transparente de la question la plus importante qui concerne le pays. Donc, de ce point de vue-là, Johnson, qui paraissait avoir pris l'ascendant il y a une semaine en court-circuitant le Parlement, eh bien, je crois que c'est un petit peu l'effet boomerang. Il a lancé le boomerang, il semblait avoir la main, et puis le boomerang lui revenait en pleine figure, puisque l'un des effets de cette suspension, c'est d'avoir, pour la première fois depuis 3 ans, mobilisé toutes les oppositions à sa politique.
Y compris dans ses propres rangs.
Oui, bien sûr, avec la défection de 21 députés, ce qui est énorme. Qui d'ailleurs ont été exclus du groupe parlementaire, ce qui est absolument dont vous avez des anciens ministres, vous avez le doyen de la Chambre, l'ancien ministre sous Thatcher, Ken Clark, enfin vous avez des noms très importants du conservatisme qui ont été exclus. Donc tout ça, ça choque. Et donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui, bien, ça c'est le propre à la saga du Brexit depuis 3 ans, une situation politique acquise un jour ne l'est pas forcément longtemps. Le lendemain, tout peut être défait. C'est effectivement ce qui est en train de se passer. Johnson paraissait très fort il y a quelques jours. D'ailleurs, la presse qui le soutient clamait qu'il avait terrassé ses oppositions et que le Brexit allait avoir lieu, y compris sans accord. Et puis aujourd'hui, on en est moins sûr. Le Parlement pourrait le contraindre à de nouveau demander un report à l'Union européenne.
Donc c'est un coup de poker raté de Boris Johnson, ou est-ce que il a quand même sorti un nouvel atout de sa manche avec l'annonce d'élections anticipées? L'étape à laquelle on en est aujourd'hui, est-ce que ça fait partie du plan de bataille?
Dire qu'il n'a absolument pas de plan de bataille serait un peu exagéré, mais je crois que ce qu'il essaie de tenter aujourd'hui, il le tente dans une situation tellement confuse et mouvante que lui-même ne peut pas maîtriser à coup sûr ce qu'il va faire. Donc, s'il a prévu avec un coup d'avance ce qu'il voulait faire, les événements peuvent tout à fait contrecarrer ce qu'il a fait. On le voit, une annonce aujourd'hui d'élection anticipée, il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il aura le dernier mot, qu'il pourra effectivement le faire. Et si, admettons que cette élection ait lieu, dans l'état d'autodestruction assez avancé dans lequel se trouve le Parti conservateur, hein, c'est quand même ce qui vient de se passer extrêmement exceptionnel et grave, hein, 21 députés exclus, eh bien, ce parti ne partira pas en ordre de bataille à l'élection. Dans nombre de circonscriptions, le parti a beaucoup à craindre, non pas des travaillistes avant tout, mais des libéraux-démocrates qui ont un électorat, certains conservateurs modérés, et qui ne veulent pas d'un no-deal Brexit, pourraient passer assez facilement d'un vote conservateur à un vote libéral-démocrate. Donc ils ont beaucoup à perdre dans cette affaire. Donc je crois que Johnson a peut-être joué son poker un peu trop tôt et trop fort en suspendant le Parlement, parce qu'après coup, il n'a pas derrière lui un parti uni. La carte électorale et les réactions du public sont aujourd'hui extrêmement difficiles à prédire. Les derniers sondages montrent que les Britanniques rejettent dans une large majorité une sortie sans accord. Il y a un climat de pessimisme dans le pays qui s'est installé, c'est-à-dire que une sortie sans accord, les Britanniques estiment que cela ferait un tort assez important à l'économie, à tout le moins dans un premier temps. Cela allait augmenter le chômage, le coût de la vie. On ne trouve pas de point positif à ça, y compris chez ceux qui, en 2016, avaient voté pour la sortie. Donc, ceux-là même ont peur. En fin de compte, on peut dire que le coup de poker de Johnson a fait deux choses, c'est de réunir une opposition qui était éclatée, notamment qui n'avait pas de leader naturel. Corbyn est une n'est pas un leader naturel du camp opposé à la sortie, puisque lui-même, on le sait, n'a pas vraiment mené campagne contre la sortie.
Mais maintenant, il se pose en porte-parole une sortie avec accord.
Il se pose en porte-parole contre une sortie sans accord. Hein. Il n'est pas vu toujours comme le champion de celui qui voudrait réclamer un deuxième référendum, par exemple. C'est un allié qui est peu fiable dans la bataille contre le Brexit en général. Donc, néanmoins, Johnson a réussi à réunir ses oppositions et surtout, il a radicalisé encore plus un électorat qui était pour le maintien dans l'Union européenne. N'oublions pas qu'ils sont quand même plus de 48%, ce qui n'est pas négligeable. Et il semble avoir progressivement accéléré un petit peu le désenchantement de ceux qui souhaitaient la sortie, qui sont toujours pour la sortie, peut-être moins qu'avant. D'ailleurs, il n'y a probablement plus de majorité pour une sortie aujourd'hui, mais ceux-là même qui restent fidèles à leur vote d'il y a 3 ans, eh bien, ont peur de cette sortie, puisque si elle se fait sans accord, ils sont convaincus, en lisant les rapports d'experts, y compris ceux du gouvernement, que les choses vont aller plus mal.